La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Des humains prêts à en manger d'autres, la question du cannibalisme aujourd'hui dans le dossier de la tête au carré. Monder Kilani est anthropologue, entre le réel et l'imaginaire, le rituel et le sauvage, il aborde ce phénomène pour en saisir toute la complexité. Le cannibalisme a abondamment inspiré la littérature, le cinéma ou la peinture, et Monder Kilani, dans son ouvrage Du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale, propose un parcours qui va bien au-delà du cannibalisme exotique pour nous montrer qu'il y a aussi mille et une manières de se faire dévorer dans nos sociétés modernes. Il est mon invité dans un instant. Caroline Tourbe, bonjour.
Bonjour Mathieu.
À la une de la science, aujourd'hui, le cruel dilemme de la voiture autonome.
Oui Mathieu, imaginez la scène. Vous êtes confortablement installé dans votre véhicule sans chauffeur, la machine vous reconduit chez vous, quand soudain, un piéton surgit devant elle. Que doit faire la voiture ? Percuter l'imprudent au risque de le tuer ou l'éviter en s'encastrant dans le mur au risque de vous tuer ? Voilà le genre de dilemme auquel sont confrontées les voitures autonomes et plus encore ceux qui doivent les programmer. Pour éclairer ce débat épineux, des chercheurs ont recueilli l'avis de millions d'internautes et leurs résultats sont détonnants.
Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupin, consacrée aujourd'hui à l'aspirine et à son usage préventif contre les maladies cardiovasculaires. Fanny Boyon réalise cette tête au carré préparée par Chantal Le Montagnier.
La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Voilà, on vous propose un parcours cannibale aujourd'hui dans l'émission. Bonjour, Monder Kilani.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous publiez Du goût de l'autre aux éditions du Seuil pour explorer donc toutes les facettes du cannibalisme. Le cannibalisme, on va le voir, hein, qui dépasse largement la figure exotique du mangeur d'hommes. C'est aussi une belle métaphore pour parler de l'humain dans son ensemble.
Oui, tout à fait. Pour ne pas se restreindre à l'exotique ou au sauvage, on a essayé d'élargir le propos à notre société, à des pans entiers de notre société moderne.
C'est quand même un sujet qui vous a beaucoup fait voyager ?
Écoutez, voyager en tout cas dans les livres et dans les idées, dans les siècles, certainement, dans les controverses aussi.
Et sur le terrain ?
Mais bien sûr aussi sur le terrain, dans la mesure où... ce n'est pas qu'on rencontre le cannibalisme sur tous les terrains. Et d'ailleurs, c'est même difficile de rencontrer le cannibalisme, même dans les populations où on l'a pratiqué. Donc souvent, le cannibalisme apparaît au détour d'une discussion, au détour d'une pratique, au détour d'un aveu qui n'en est pas tout à fait un. Mais moi, personnellement, effectivement, je l'ai rencontré dans la littérature concernant la Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai fait ma thèse sur les cultes du cargo, qui est déjà un sujet en soi, et qui est une façon de renvoyer les Mélanésiens à une pensée primitive, alors que les cultes du cargo sont un phénomène plutôt qui pousse les indigènes à se mobiliser contre la présence des Blancs, et surtout, l'absence de réciprocité. Alors, c'est là, effectivement, que j'ai été confronté à cette accusation.
C'est ça. On vous a même pris pour un cannibale. Hein. On en parlera avec vous dans quelques instants. Et puis, on se retrouve pour découvrir donc cette anthropologie du cannibalisme avec les messages des auditeurs auxquels vous répondrez. Ce n'est plus de la science-fiction, des voitures autonomes commencent à circuler parmi nous dans les rues. De premiers accidents mortels ont même déjà eu lieu.
C'est une vidéo d'une quinzaine de secondes. Une voiture autonome Uber, lancée sur une route de nuit, en Arizona. La conductrice ne touche pas aux commandes, mais quand surgit une femme en train de pousser un vélo, le véhicule ne freine pas et la renverse.
Voilà, le dilemme de la voiture autonome, c'est le sujet de la Une de la Science. Caroline Tourbe, on en parle avec notre invité aujourd'hui.
Oui Mathieu, aujourd'hui nous sommes en ligne avec Jean-François Bonnefond. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences cognitives à la Toulouse School of Economics et avec une équipe du MIT et des universités d'Harvard et de Colombie-Britannique, vous avez imaginé le projet Moral Machine. Il s'agit d'un site sur lequel on passe un test qui met en scène une voiture autonome et des piétons. Vous pouvez nous expliquer le principe et les principaux scénarios qui sont proposés dans cette Moral Machine ?
Bien sûr, quand on se connecte à Moral Machine, on voit des scénarios d'accident où une voiture autonome peut percuter un groupe de piétons ou un autre, par exemple, et ces scénarios sont piochés parmi 26 millions de possibilités. Donc la diversité est très très grande, on peut avoir le choix entre écraser une petite fille ou un couple âgé, deux joggeurs ou un chat, et ainsi de suite.
Et alors, depuis sa mise en ligne en juin 2016, ce test a reçu plus de 40 millions de réponses sur les préférences morales de personnes originaires de 233 pays différents. C'est simple, ça en fait l'une des plus grosses enquêtes jamais réalisées au niveau académique. Et quels sont les grands enseignements que vous en avez tirés?
Alors, en analysant statistiquement ces 40 millions de réponses, nous avons observé trois grandes préférences à l'échelle du monde pour sauver les humains plutôt que les animaux, sauver plus de vies plutôt que moins, et puis sauver en priorité les enfants. Ensuite, il y a des préférences moins grandes sur d'autres aspects des accidents, et puis des différences d'un pays à l'autre.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que le profil des personnes, l'âge, le sexe, la profession apportent peu dans les résultats. Ce qui compte, c'est plutôt leur origine géographique.
Exactement. Votre âge, votre sexe, vos revenus, tout ça a très peu d'impact en réalité sur vos réponses, mais votre pays, oui, a de l'importance. Nous avons observé ainsi plusieurs grandes régions du monde qui avaient des profils différents dans leurs décisions.
Vous avez réussi à même différencier trois grandes régions?
Absolument. Nous avons différencié, disons, le monde occidental au sens large, avec des pays comme l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, le monde de l'Asie et des pays musulmans, et puis l'hémisphère sud, avec essentiellement l'Amérique latine et l'Amérique centrale.
Donc dans ces trois groupes, il y a eu des choix qui se ressemblent, les participants qui étaient de ces groupes avaient des choix à peu près comparables. Il y a un cas qui est très à part, c'est la France, c'est ça? La France, qui est normalement dans le pays des groupes de l'Ouest, ne répond pas comme les autres.
Absolument, on aurait pu s'attendre à ce que la France ait des réponses proches, disons, des autres pays occidentaux, et en particulier de ses voisins européens, mais on n'a pas trouvé ça. La France, en réalité, ressemble davantage à l'Amérique latine et est très différente de ses voisins européens.
C'est-à-dire, alors, préciser, Jean-François Bonnefond, qu'on comprenne en quoi ils sont différents, justement.
Alors voilà, c'est un profil, disons, multidimensionnel, mais les grandes dimensions qui différencient la France du reste de l'Europe, c'est une importance très forte accordée à sauver la vie des femmes et une plus grande sensibilité au statut social et physique des victimes. C'est-à-dire qu'en France, on sauve beaucoup plus les femmes. On a tendance à privilégier la vie des gens à haut statut social et puis de sauver moins les personnes en surpoids.
Donc si on vous suit en France, c'est les femmes et les enfants d'abord, surtout les femmes. Et est-ce qu'on aurait une idée des raisons qui poussent les participants français à répondre comme ça, différemment des autres pays européens?
Non, je vais vous dire honnêtement non. Le fait que la France ressemble aux pays d'Amérique latine, on pourrait trouver une explication en termes d'inspiration du droit sud-américain sur le droit français. Mais pourquoi la France est si différente du reste de l'Europe, j'avoue, je ne sais pas. Et ce n'est pas un problème statistique parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de participants en France.
Il y a également eu des études dans les années 60 hein, qui permettaient de faire des choix moraux. Ça s'appelait le dilemme du tramway, un chauffeur de tramway qui risque de tuer une personne ou cinq personnes selon la voie qu'il choisit. Et actuellement, quand vous comparez ces résultats qui datent des années 60 aux résultats que vous avez eus en 2016, depuis 2016, vous voyez des différences? Il y a eu une évolution des choix moraux?
Oui, alors bien sûr, on n'a pas l'équivalent de Moral Machine, de la base de données que nous avons pour les problèmes de tramway que vous décrivez, mais reste que depuis les années 60, oui, on observe un glissement dans les préférences de la population, enfin des données surtout aux États-Unis, et les générations nouvelles, les générations les plus jeunes maintenant, semblent plus à l'aise avec l'idée de sacrifier une personne pour le bien du plus grand nombre.
Jean-François Bonnefond, ces dilemmes justement moraux, comment les constructeurs de voitures autonomes vont s'en emparer alors exactement?
Je pense qu'ils ne veulent pas s'en emparer et qu'on ne peut pas leur demander de le faire. Les constructeurs automobiles, je crois, comprennent très bien qu'ils n'ont rien à gagner à parler de ce genre de situation macabre et que leur travail, ce n'est pas de prendre des décisions morales. Leur travail, c'est de construire des voitures fiables. Donc, ne leur demandons pas cela et je pense que eux-mêmes attendent que les gouvernements prennent les décisions et leur disent quoi faire.
Ils sont dans une position attentiste. Pour eux, leurs voitures seront même tellement bonnes qu'il n'y aura pas d'accident?
Ça, c'est ce qu'ils vous diront, si vous leur demandez. Mais je crois que de façon plus réaliste, les constructeurs comprennent que sur ces questions de dilemme moral, ben, le mot important, c'est dilemme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution, c'est-à-dire que les gens ne sont pas d'accord sur ce qu'il faut faire, et c'est-à-dire que quelle que soit la décision qu'ils prendront, ils fâcheront une partie de leurs clients.
Jean-François Bonnefond, merci beaucoup pour cet éclairage sur la voiture autonome et le dilemme de l'algorithme de la mort.
Merci beaucoup, on se retrouve demain, et dans un instant, notre dossier sur le cannibalisme. Nuit fantôme, c'était de l'Imananas sur France Inter.
J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti.
La tête au carré.
Voilà, Amandaër Kilani qui a reconnu évidemment l'extrait à l'instant de Silence des agneaux, voilà, pour parler du cannibalisme. Et vous êtes notre invité cet après-midi en tant qu'anthropologue et professeur honoraire à l'Université de Lausanne. Vous publiez Au seuil du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale, Au seuil, dans la collection La couleur des idées. Alors, c'est un parcours cannibale qui, in fine, va nous montrer que le monstre n'est peut-être pas celui auquel on pense tout de suite. Et justement, ce sous-titre fragment d'un discours cannibale. Il y a un clin d'œil à Barthes, très clair. Et puis, on parlera d'amour, d'ailleurs, aussi, au cours de ce parcours avec vous. Hein.
Oui, tout à fait. Effectivement, moi, ma première idée, c'était que le titre soit fragment d'un discours amoureux.
Oui.
Cannibale.
Justement, le clin d'œil, c'est fragment d'un discours amoureux.
Effectivement, le clin d'œil, puisqu'il y a une relation évidente entre manger et aimer, ou faire l'amour, ou copuler.
Oui.
Et puis aussi Barthes, parce que comme j'essaie d'analyser le cas d'Issei Sagawa, donc le fameux
japonais de Paris,
voilà, cannibale japonais, ouais, de Paris,
ouais,
il a des réflexions très intéressantes sur la crudité du Japon, qu'il analyse comme justement un élément plutôt de sophistication culturelle, alors qu'on a réduit Issei Sagawa à la crudité japonaise et donc à une certaine forme de barbarie, disant voilà, ils sont capables de manger manger l'autre parce qu'ils mangent cru.
Ouais.
Voilà, donc c'était un double clin d'œil à Roland Barthes.
Bah, puisque vous en parlez, on peut tout de suite l'aborder, parce que ça, c'est un des événements contemporains les plus marquants, en tout cas pour nos sociétés, d'exemple de cannibalisme. Hein, c'est-à-dire ce Japonais qui a dévoré la femme qu'il aimait, tout simplement.
Oui, tout à fait.
Hein.
Effectivement, mais bon, moi ce qui m'intéressait, c'est d'aller au-delà de l'anecdote, de l'acte particulier, mm-hmm, et en plus exotique, enfin un Japonais qui mange une Néerlandaise à Paris. Mm-hmm. Derrière cette fascination pour l'étranger, l'étrange, l'exotique, le japonais, ce qui m'intéressait, c'est au fond la manière dont Issei Sagawa lui-même a restitué son expérience. Et on a eu la chance, entre guillemets, puisqu'au fond il a été... enfin, acquitté. Donc, il n'a pas été poursuivi à Paris parce qu'elle a été considérée comme irresponsable, et il est reparti au Japon, et tout de suite, il a commencé à écrire. Et il y a Juro, il y a un grand romancier japonais, Juro, qui a écrit un texte sur lui, digression autour d'Issei Sagawa, pour comprendre finalement que le cannibalisme, justement, ce n'est pas le fait, c'est pas la mendication de l'homme par l'homme.
Mm-hmm.
C'est
donc
bien
le
plus
fait
que
de
ça.
Manger l'homme, hein,
c'est voilà, c'est
de la chair de l'homme.
Voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est plutôt la dimension symbolique, ce qu'on fait l'acteur ou les acteurs qui pratiquent ouais, ou qui sont prêts à passer à l'acte.
On va écouter justement la voix d'Issei Sagawa, parce qu'on a la chance aussi d'avoir son témoignage. C'est quasiment une confession sur un divan psychanalytique, hein, ce
tout
qu'on va
fait,
entendre. C'est
fait,
assez étonnant, très saisissant, même troublant, et tout on l'écoute fait ensemble.
Pour les spécialistes japonais, Sagawa, le cannibale qui vient de sortir de l'hôpital, n'est même pas un malade mental. Après son horrible crime, le meurtre d'une néerlandaise de 25 ans et son acte de cannibalisme consommé pendant 4 jours, nos psychiatres avaient dit qu'il était totalement fou au moment de son acte. Sagawa avait découpé la jeune femme en morceaux et il l'a mangée pour consommer son amour pour elle, avait-il dit. Des membres d'une télévision privée se sont rendus au Japon et ont ramené un document pour mieux comprendre un tel acte.
Le cannibalisme, ce n'est pas des choses horribles. Ce n'est pas le criminel, pas du tout. C'est une sorte d'expression de l'amour. Par exemple, si on met de nos bébés dans le noir, ils crient. Pourquoi ils crient? Ce n'est pas parce qu'ils ont peur. Ils demandent le contact avec quelqu'un d'autre, surtout sa mère. Justement, c'est une façon de contacter avec quelqu'un d'autre, surtout avec quelqu'un qu'il aime. Donc, mon cannibalisme, c'est justement pareil. Je voulais sentir l'existence que j'aime. Je veux toucher, je veux sentir plus fortement.
Voilà, ça c'est troublant de l'entendre, hein, Issei Sagawa.
Tout à fait.
Et de faire ce lien entre le cannibalisme et cette image du bébé aussi.
Tout à fait. Alors justement, Issei Sagawa va tout de suite au-delà de l'acte de mendication de la nécessité, et il proclame, je le cite, que la question du goût de la chair reste toujours dans le brouillard. Mmh. Donc on voit bien en fait que la question centrale n'est pas là. Et l'auteur dont je parlais tout à l'heure, Juro Kara, qui a écrit donc cet ouvrage, mmh, et qui est venu à Paris pour suivre le parcours d'Issei Sagawa, en fait il a compris aussi qu'on ne peut pas parler du cannibalisme en le réduisant à un acte purement nutritionnel. Alors, dans sa correspondance à Sagawa, il dit ceci, il se demande si Sagawa était véritablement préoccupé de sensations gustatives. J'entends, il n'y a rien de sensuel dans votre acte, mais uniquement du cérébral. Donc voilà, en fait, ce serait au fond un peu une piste pour mon ouvrage. Mais ce qui m'intéresse dans le cannibalisme, c'est sa dimension symbolique, même s'il y a un acte de mendication.
Oui. Cela dit, vous parlez aussi dans votre livre d'aspect gustatif, voire gastronomique aussi, on pourra en discuter tout à l'heure, parce qu'il y a tellement de facettes autour de cette question, qu'effectivement, on peut aller sur différents terrains. Comment vous avez été amené à vous intéresser à cette question du cannibalisme, Mondher Kilani, au départ, alors ?
En fait, bon, il y a plusieurs pistes, bien sûr. Bon, d'abord, la première piste, c'est que la catégorie du cannibalisme est une catégorie en quelque sorte classique, bien qu'elle a toujours été controversée. Mmh. Et que jusqu'à aujourd'hui, nous avons presque deux positions irréductibles par rapport à l'interprétation. Une interprétation, pour aller très vite, matérialiste, qui consiste à dire que même les populations qui pratiquent rituellement le cannibalisme le font par manque de protéines, pour aller très vite, donc par nécessité. C'était déjà une thèse au XVIIIe siècle. Hein, Diderot l'avait déjà postulé, de Pau aussi, donc c'était pas du tout nouveau. Et l'autre thèse, c'est de dire que le cannibalisme, au-delà de l'acte d'ingérer, est d'avoir un acte symbolique, est une façon de témoigner de relations sociales et témoigner d'un certain nombre de valeurs. Ouais. Et c'était Montaigne, déjà, le représentant de cette vision.
Oui, d'ailleurs, vous le citez dans la conclusion de l'ouvrage, mais alors, la controverse, elle n'était pas liée au fait qu'on se demandait si on pratiquait le cannibalisme. Ça, c'est une chose qui est avérée.
Mais en fait, oui et non, dans la mesure où on a pas de témoignage direct du cannibalisme dans les sociétés qui auraient pratiqué le cannibalisme. Donc en fait, les anthropologues ne peuvent accéder au phénomène qu'indirectement à travers ce que peuvent raconter les anciens, à travers certains mythes, à travers certaines pratiques, et les déduisent donc de tout cet univers. Donc en fait, le cannibalisme est toujours en quelque sorte un aveu. C'est-à-dire, il n'a jamais été directement observé.
Ouais. Ça, c'est une difficulté pour une science, de ne pas pouvoir l'observer directement.
Mais bien sûr. Mais moi, je pense qu'au-delà du cannibalisme, c'est une difficulté pour tous les sujets, pour tous les objets. Dans la mesure où les sujets ou les objets de la culture passent toujours par la médiation du langage, du symbolique, passent par le conte, par le mythe, par la poésie. Donc, on n'a jamais un accès direct au réel. Et même quand on a accès à un réel, entre guillemets, ben ce réel, il se donne dans une sorte de description qui n'en est pas une. Donc il faut pouvoir entrer dedans et décortiquer le tissu social qu'il y a derrière, d'autant plus que l'observateur projette toujours ses visions, ses fantasmes sur ce qu'il observe. Ouais. Et l'anthropologue n'échappe pas, non pas qu'il ne fait pas de la bonne science, mais on ne peut pas faire autrement de projeter ses catégories pour analyser un phénomène.
Ouais. Alors ça, c'est très important ce que vous dites, parce que vous décrivez parfaitement d'abord votre méthode scientifique, celle de votre travail de terrain aussi en tant qu'anthropologue. Et sur cette question donc du cannibalisme, on arrive parfois, après avoir passé du temps auprès de populations, par exemple, à avoir précisément des aveux, c'est ce que vous dites dans certains exemples, mais qui arrivent à des moments très inattendu au fond.
Absolument, absolument. On s'y attendait pas. Par exemple, le fameux exemple de Pierre Clastres chez les Guayaquis. Il était persuadé justement qu'il n'y avait pas de cannibalisme.
Qui sont les Guayaquis?
Les Guayaquis, et puis que c'était...
Qui sont-ils?
Ah bah, oui, excusez-moi, oui, c'est une population indienne du Paraguay. À l'époque où Pierre Clastres travaillait, ils étaient en train d'être en bout de parcours, malheureusement, à cause des maladies, à cause de l'acculturation. Et donc, il a travaillé parmi une bande qui essayait de résister le plus possible. Et il partait de l'idée, justement, que le cannibalisme est d'abord une accusation que les colons ont utilisée pour massacrer les Indiens, et que finalement, au bout d'une année, ils n'en voyaient pas. Et c'est au détour d'un aveu qui ne portait pas directement sur le cannibalisme, qu'il a découvert, au fond, qu'on pratique le cannibalisme mortuaire. C'est-à-dire qu'on déterre les ossements des morts, et qu'on les pile, on les fait bouillir, et on organise des cérémonies, en fait, de second enterrement. Enterrement. Donc, en fait, il y a accédé à travers l'aveu, et après avoir parcouru les différents imaginaires historiques autour du cannibalisme, accusation, pas accusation, aveu, etc.
Paul nous dit sur franceinter.fr, les images du blanc qui était en train de cuire dans une marmite, est-ce que ça n'était pas une manière de montrer aux Occidentaux le sauvage anthropophage ?
Oui, ça c'est le cliché le plus fort, c'est vraiment le degré zéro de la description du cannibalisme.
Mais qui était abondamment utilisé.
Voilà, hein, telle qu'elle a été construite.
Le blanc en train de,
en train de cuire. Voilà. En général, le blanc, soit c'est le missionnaire, soit c'est l'aventurier, soit c'est le découvreur, l'explorateur. Quoi.
C'est ça.
Et donc, c'est une vision extrêmement, bien sûr, simplifiée, parce que pour la bonne raison, en fait, que un cannibalisme bien ritualisé ne consiste pas du tout à manger l'étranger. Au contraire, l'étranger, c'est un danger. Ouais. On se mange entre
soi. C'est lui le cannibale, d'ailleurs, l'étranger.
En général,
hein.
Oui, c'est plutôt
ça.
Lui.
C'est lui qui porte la figure du cannibale.
Du cannibale, finalement, c'est pour ça. Dans ce sens, on peut dire justement que le cannibalisme, au fond, ne définit rien, dans la mesure où celui qui accuse les autres d'être cannibales et lui-même, en fait, parfois sans le savoir, accusé de cannibalisme et d'un cannibalisme sauvage. Donc en fait, le cannibalisme est toujours relatif, on est toujours le cannibale de quelqu'un.
Allez, on y revient dans un instant.
Trying hard to get your attention, but it ain't working. Yeah, I've been spending all my nights and time crying. Won't you get that right? Satisfaction guaranteed. You just keep on digging, yeah. Satisfaction guaranteed. What?
Be honest, Kitty Smile, à l'instant.
La tête au carré.
Je fais ça pour essayer.
Si c'était juste pour essayer, t'aurais pas pu choisir autre chose que mon doigt.
Y a rien d'autre qui t'intéressait sur le menu.
J'espère qu'il était bon, moi.
T'as un goût de curry.
Et du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale, c'est Monder Kilani, anthropologue, qui est notre invité cet après-midi avec cet ouvrage qui sort au Seuil dans la collection La couleur des idées. Et vous nous rejoignez avec vos messages sur franceinter.fr. Alors vous commencez d'ailleurs votre ouvrage avec la lettre d'une étudiante en médecine, personnellement touchée, écrit-elle, par le phénomène, et qui cherchait votre appui d'ailleurs en vous écrivant. Qu'est-ce qui se passait au fond pour cette jeune femme? Est-ce qu'elle témoignait tout simplement d'une peur panique sur la question?
En fait, oui, c'est l'interprétation que j'ai faite a posteriori, parce que quand j'ai reçu cette lettre, au fond, elle m'a beaucoup effrayé. J'ai été confronté, moi qui enseignais dans un auditoire et qui enseignais les théories anthropologiques, les interprétations autour du cannibalisme,
Je
restais ou on restait dans l'abstrait, quoi, même si ça relevait parfois de cas très concrets de description, comme le radeau de la Méduse et autres. Mais là, je reçois une lettre dans laquelle une personne est directement impliquée, et qui exprime une peur panique, au fond, d'être mangée, mais à travers un certain nombre d'éléments qu'elle a mis en évidence, à savoir qu'elle a trouvé ou qu'elle aurait trouvé des ossements correspondant plutôt à un enfant dans une poubelle, qu'elle a fait les démarches auprès de la police, auprès des médecins, puis que personne lui répondait. En fait, donc cette lettre, je l'ai laissée de côté pendant très longtemps, en fait. Et c'est comme quand j'ai commencé à écrire, et quand j'ai réfléchi sur le phénomène du cannibalisme, je me dis, mais qu'est-ce que le cannibalisme en dehors de cette mendication de l'homme par l'homme, ou de la femme par la femme, enfin, il faut quand même généraliser la parité. Je me suis dit, justement, voilà, cette lettre exprime toute l'ambivalence du phénomène cannibalisme, surtout toute sa force, puisque on est tout le temps pris dans une situation où on a peur d'être mangé, mais aussi on a envie de manger. On a peur d'être ingurgité, mais on a envie aussi d'ingurgiter l'autre. Donc on est tout le temps pris dans cette dialectique, dans cette relation dans ce renversement, en fait, continue.
Monder Kilani, à quel moment, dans quelles circonstances est-ce qu'on vous a pris vous-même donc pour un cannibale, alors?
Ben là aussi, c'est une façon, en fait, d'illustrer ma démarche, et puis qui m'a poussé à construire mon interprétation du cannibalisme et d'aller au-delà donc d'une analyse des phénomènes avérés qui ça a été fait par d'autres anthropologues et très bien. Donc j'ai des collègues américanistes ou autres qui ont fait un travail formidable sur le cannibalisme dans l'interprétation et à travers un inventaire. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est d'aller au-delà des cas classiques pour comprendre le phénomène cannibale comme un phénomène culturel plus global et comme l'expression d'un malentendu culturel. Voilà. Et moi-même, j'ai été pris justement dans ce réseau de projections et d'images en Papouasie, dans le Sépik, dans la région du Sépik où je me trouvais, où à un certain moment j'ai été pris pour un cannibale. Bon, il a fallu du temps, enfin, pour que la personne m'avoue cela, enfin, après plusieurs.
Mais ça veut dire que vous avez suscité de la peur
Non, parce que j'étais plutôt dans.
C'était juste une appellation pour dire l'autre et l'étranger qui arrivait.
Voilà, exactement, en fait, pour aller très vite, l'étranger était considéré comme venant d'au-delà des mers, et si ils reviennent, sous forme de blanc en général, c'est les ancêtres qui reviennent de la mort. Donc, il y a une ambiguïté, les ancêtres, normalement, ne devraient pas revenir, ils sont bien à leur place au-delà, mais s'ils reviennent, c'est qu'ils vont nous manger, ou on a fait une faute, et comment entrer en situation. Donc l'étranger, en fait, est à la fois l'ancêtre. Donc il est à la fois bienveillant, il peut apporter la culture avec lui, mais en même temps il peut être aussi dangereux, puisque les morts ne sont pas censés revenir. Donc le blanc a été pris en quelque sorte pour les ancêtres et pour des cannibales.
Comment ça se passe justement dans ce cas précis, quand on est anthropologue, qu'on est face à une population qui a cette croyance? Comment on en discute avec elle précisément? Est-ce qu'on essaie de déconstruire cette croyance, ou est-ce qu'au contraire, finalement, on la maintient? Et on l'accepte.
C'est-à-dire, on essaie de l'interpréter un peu différemment. C'est-à-dire, moi, je l'ai pas pris à la lettre. J'ai essayé de comprendre pourquoi il m'a associé à un cannibale. Mais en fait, c'est tout simple. Il m'a associé, les populations locales, elles ont été confrontées à différentes entre guillemets, tribus de blancs. Hein, les Allemands d'abord, les Anglais, les Américains, pendant la guerre du Pacifique, les Japonais. Et en fait, donc, pour eux, au fond, les blancs, ça se mélange. À un certain moment, on m'a pris, au fond, pour... alors que j'étais plutôt suisse-européen, on m'a pris pour un Japonais, enfin, peut-être parce que j'ai des yeux un peu bridés. Et c'est vrai que les Japonais ont pratiqué du cannibalisme pendant la Deuxième Guerre mondiale sur plusieurs îles du Pacifique, et notamment en Papouasie. Mmh. Donc, pour lui, c'était un neveu. C'était une façon d'entrer en contact avec moi, de me dire, au fond, bah, je t'aime bien, etc. Mais dis-moi qui tu es, finalement. Parce que c'est ça, à travers l'accusation de cannibalisme, c'est une façon, au fond, de me sommer à moi, à me définir d'où je viens, etc. Donc, moi, j'ai pris cette accusation de cannibalisme plutôt comme une invitation à un dialogue, à un échange. Et je l'ai prise à ce titre-là.
On va écouter un document qui date de 1956. C'est les souvenirs d'un ancien colonial. Il s'appelle Julien Maigret. Il raconte son voyage en République centrale africaine, voyage qu'il avait effectué en 1904. Écoutez, c'était sur la RTF.
Au cours d'une de mes promenades aux environs du village, le hasard me conduisit vers un groupe de cases à l'orée d'un bosquet fort épais. Ce qui frappa fort désagréablement mon regard, ce fut le lugubre alignement de crânes humains qui me fixaient de leurs yeux vides. Certains de ces crânes, tout verdis par l'humidité, s'ornaient d'une sorte de mousse crépue. D'autres crânes, plus récents si j'ose dire, étaient barbouillés de traînées d'un rouge noirâtre dont l'origine ne laissait aucun doute. Évidemment, ces peuples qui m'attiraient par la simplicité de leur vie, si proche à mes yeux de celle des gracieuses antilopes aperçues paissant parmi les arbustes fleuris des pelouses, ces peuples étaient aussi cruels que les autres peuples. Ainsi qu'on me l'avait dit, ils étaient anthropophages. Rendez-vous compte de l'horreur que ce mot soulevait dans notre esprit de civilisé au début de ce siècle.
Voilà, souvenir d'un ancien colonial. Donc ça date de 1956, mais témoignage d'une chose vue en 1904. Qu'est-ce que vous en pensez, Monderkilani? On a une description assez classique, finalement, non?
Tout à fait, la question, là. On est vraiment...
On est presque dans les clichés.
On est dans le cliché, dans le stéréotype. Et d'ailleurs, le cannibalisme sied bien, en fait, au stéréotype. C'est pas pour rien que c'est l'accusation la plus fréquente dans l'histoire et dans toutes les cultures.
Ah oui,
absolument. C'est-à-dire, la question de cannibalisme, on la retrouve vraiment partout, dans toutes les cultures et à toutes les époques. Là, c'est le stéréotype qui n'arrête pas de revenir et qui n'arrête pas d'être réinventé par les différents voyageurs et découvreurs. Mais en fait, il reprend une matrice qui a été mise en place à l'époque de Colomb et de son médecin de la deuxième expédition, Chaka. Et on retrouve exactement cette description. En contextualisant, lui aussi, il s'est promené autour du village et il a trouvé des ossements et à partir de là, il a fabriqué toute une mise en scène et projeté justement un banquet cannibale. Et tous les romans cannibales Robinson Crusoe déjà, Ballantine avec l'île de Corail, tous les romans cannibales ont repris cette scène, disons, inaugurale de Chaka au tout début du XVIe siècle.
Oui. Alors, il y a beaucoup de messages des auditeurs. Larry qui nous dit sur Twitter, le proverbe « l'homme est un loup pour l'homme » n'est-il pas en lien avec le cannibalisme ?
Moi, je dirais que non, ou alors c'est vraiment un détournement de ce qu'est le cannibalisme. Parce que le cannibalisme rituel est le cannibalisme de relation, de réciprocité. On mange en fait quelque chose, quelqu'un qui nous ressemble parce qu'on a besoin au fond de cette altérité pour nous construire nous-mêmes. Donc c'est pas du tout dans cet esprit-là que les populations pratiquent le cannibalisme rituel.
Mais quand vous citez le petit chaperon rouge par exemple, c'est le loup qui mange la petite fille là, en l'occurrence.
D'accord, mais là on est alors dans le symbolique, dans le métaphorique et au fond le loup il est là comme un opérateur. Il nous permet, au fond il permet au petit chaperon rouge de prendre conscience de sa transformation, du fait qu'elle devient... pubère et qu'elle doit remplacer la mère. Et le loup, il est là, au fond, il même il, à la limite, le loup joue un rôle positif dans la mesure où il montre à la fille ce qu'elle est devenue, et notamment à la fille, à la mère et à la grand-mère, le fait de respecter la succession des générations. Parce que finalement, c'est quoi d'autre, cette histoire, que la question de la fécondité? Au fond, la fille mange la fécondité de la mère.
Qu'en est-il de la législation, demande Quentin sur Facebook. Le cannibalisme est-il clairement interdit en France et dans d'autres pays?
Non, en fait, très paradoxalement, tout comme l'inceste, le cannibalisme n'est pas du tout interdit. C'est pour montrer justement la difficulté. Mais comment caractériser un acte cannibale? Donc, dans les législations, il n'y a pas du tout de condamnation explicite dans le code pénal du cannibalisme, tout comme il n'y a pas une condamnation de l'inceste.
Allez, d'autres questions pour vous, mon dear Kilani, dans un instant.
J'en passe, j'en passe, j'en passe.
Laurent Voulzy, c'était le cœur grenadine.
La tête au carré. Sur France Inter.
Voilà, Mandar Kilani, du goût de l'autre. On peut parler gastronomie d'ailleurs, on peut en dire un petit mot, parce que vous l'évoquez dans le livre.
Écoutez, oui, en tout cas, c'est un thème littéraire assez couru. Par exemple, Mishima, bien sûr, mais Valcaz Montalban, enfin, le grand romancier espagnol. Tout à fait, non, le cannibalisme a donc là, beaucoup c'est vraiment inspiré. C'est-à-dire le goût, oui, bon, bien sûr, on s'est toujours posé la question, mais quel goût a la chair humaine pour l'homme, quoi. Enfin, c'est toujours posé cette question dès le départ. Puis on y répond de différentes façons. Il y en a qui l'associent au porc. Pourquoi ? Parce que ce serait l'animal le plus proche. Mm-hmm. D'autres l'associent plutôt au veau, etc. Donc tout
dépend. Il y a eu des témoignages indirects.
Là, oui, bon, mais là de nouveau. Enfin, il faut voir vraiment dans quelle mesure ce sont des témoignages qui correspondent à la réalité et à une pratique attestée, quoi.
Parmi les événements marquants, cet accident d'avion uruguayen en octobre 1972 dans le massif des Andes. C'était une équipe nationale de rugby. Hein. Oui. On va écouter justement l'extrait du film Les Survivants, et puis on commande ça juste après ensemble.
Bon, écoutez, j'ai quelque chose à vous dire. Ils ont cessé les recherches.
Oh non,
quoi ?
Ils ont décidé d'abandonner les recherches, il va bien falloir qu'on se débrouille pour sauver notre peau, et pour ça, il faut manger.
Manger quoi ?
Putain, quoi ?
Non.
Les morts ?
Il veut dire manger les morts.
Exactement. Et tu veux qu'on mange des êtres humains ?
Non, je veux qu'on mange de la viande pour ne pas mourir.
Je pourrais jamais.
C'est dégoûtant.
Je pourrais pas faire ça.
Ce qu'il y a dehors, là, dans la neige, c'est plus que de la viande, Antonio. De la nourriture.
Je préfère mourir. Parce que moi, je crois en Dieu et je redoute son jugement si je faisais une chose pareille.
C'est lui qui nous a mis ici.
Et peut-être l'a-t-il fait comme une épreuve ? Pour voir si nous sommes toujours civilisés.
J'ai toujours cru que Dieu voulait qu'on suive notre cœur, qu'on serve de notre raison. Qu'on lutte pour vivre.
À tout prix ?
Non. On ne doit pas tuer des innocents.
Qu'est-ce que tu fais de notre innocence ? Qu'est-ce qu'il adviendra de notre innocence si nous survivons en étant des cannibales ?
Voilà, Mandar Kilani. Là, on est dans le mysticisme du cannibalisme hein, aussi.
Oui, cette scène, en fait, résume parfaitement les deux approches dont je parlais tout à l'heure du cannibalisme. Une approche naturaliste, à savoir, le cannibalisme, c'est que de la viande, des protéines. D'ailleurs, là, au début, on disait, mais il fallait le manger, surtout cru, parce que c'est là où il y a le plus de protéines. Mais personne n'a transgressé. Parce que, justement, il y avait une réticence à transgresser un tabou culturel. Ouais. C'est à partir du moment où un argument théologique a été mis en avant pour dire, au fond, c'est une épreuve que Dieu nous envoie, en fait. Et on va y répondre. Et d'ailleurs, le Christ n'a-t-il pas donné son corps pour que la communauté puisse vivre ? Et c'est quand l'argument théologique a pris le dessus que les survivants ont pu transgresser le tabou. Ouais. Et en transgressant le tabou, d'ailleurs, ils ont créé des règles très précises, des règles culturelles. Donc, ils ont pratiqué, en quelque sorte, un cannibalisme rituel. C'est pour montrer, en fait, que manger de la chair humaine suppose toujours une symbolisation.
En hiérarchisant aussi les organes.
Bien sûr, tout à fait.
Qu'ils allaient manger.
Les organes, en fonction, bien sûr, de l'imaginaire, de leur culture, en fonction aussi de la proximité des personnes, des corps des morts. Donc, en fait, par exemple, les très proches se sont abstenus de manger le corps du frère ou de l'épouse ou du mari. Et donc on a hiérarchisé non seulement les personnes à manger, qu'elles soient pas trop proches pour que ce soit pas de l'inceste,
mais leurs organes aussi.
Et de nouveau les organes, il y a des organes qui symboliquement ont une signification et d'autres pas.
Lesquels par exemple ? Quel est l'organe qu'on ne va pas manger en premier parce que justement ?
Et par exemple le cœur. Parce qu'il est extrêmement chargé. Bien que là aussi dans certains rituels de vengeance, c'est la première chose qu'on mange. Chez les Aztèques par exemple, c'était le cœur. Mais dans le cas particulier, par contre, les intestins, on les a mangés. Mais ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, un Suisse, disons, puisque je viens de Suisse, ne mangerait pas du tout les intestins, même déjà les intestins de la vache. Enfin, c'est pas dans la culture. Alors que dans la gastronomie, disons, uruguayenne ou méditerranéenne, l'intestin est un mets de choix.
Étienne nous dit, si je me souviens bien, les Guayaquis ne se contentaient pas seulement des os de leurs morts, mais de la chair aussi, notamment le sexe des hommes donné aux femmes enceintes, donné en priorité pour des raisons de fertilité.
Oui, parce qu'il y a une symbolisation, effectivement. Enfin, il y a ouais. des organes femelles, il y a des organes mâles du corps, et donc on va choisir le type de d'organes masculin ou féminin pour accroître soit la féminité, soit la masculinité. Donc le cannibalisme joue aussi dans la construction du genre, dans la construction du masculin et du féminin.
Ouais, Philippe nous dit, on a en tête le cannibale qui pratique l'exocannibalisme, hein, donc le fait de manger les autres. Il semble que le cannibalisme soit surtout de l'endocannibalisme. En d'autres termes, on mange d'abord les siens et pas les autres, et surtout, on n'a pas le choix de les manger.
Oui, bon, ça dépend. Hein. Bon, disons, grosso modo, on fait une distinction entre l'endocannibalisme et l'exocannibalisme. L'endocannibalisme, en général, pour aller très vite, c'est du cannibalisme mortuaire. Mmh. C'est-à-dire, on mange ces morts pour qu'ils ne reviennent plus et qu'ils soient définitivement admis dans l'autre monde. Mmh. Alors que l'exocannibalisme, c'est plutôt un cannibalisme guerrier qui se pratique entre ennemis alliés. Entre beaux-frères, en quelque sorte. Donc, là, de nouveau, le cannibalisme apparaît comme quelque chose d'ambivalent. Mmh. C'est-à-dire, on mange l'autre, qui est différent de moi, mais pas trop différent, pour que je puisse ingérer une partie de lui pour me renforcer.
On pourrait poser la question au docteur Dupagne, mais attention, le cannibalisme n'est pas forcément bon pour la santé, parce que vous rappelez que Daniel Carlson s'est vu décerner le prix Nobel de médecine en 76 pour avoir mis au jour l'agent infectieux responsable de l'épidémie de courroux chez les flores de Nouvelle-Guinée australienne. C'est une maladie cérébrale. Oui. Dégénératif qui est transmise par l'absorption de chair humaine.
Tout à fait. Donc, il a eu effectivement le prix Nobel pour le prion qu'il a découvert à l'intérieur de cette maladie. Mais et j'en parle dans cet ouvrage et dans d'autres articles un peu plus scientifiques ou un peu plus approfondis. En fait, la relation entre le courroux, donc cette maladie dégénérative qui fait penser à la maladie de la vache folle, donc l'ESB, l'encéphalite spongiforme bovine, n'est pas, on ne sait pas très bien et on ne sait toujours pas si elle est elle est vraiment liée au cannibalisme, c'est-à-dire au fait d'ingérer le cerveau de ses ancêtres.
Merci beaucoup. Monder Kilani s'appelle Du goût de l'autre, fragment d'un discours cannibale, et c'est aux éditions du Seuil dans la collection La couleur des idées. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.
Merci à vous de m'avoir reçu.
À bientôt.
À bientôt.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Votre chronique du jour s'intéresse à l'aspirine et plus particulièrement à son usage préventif contre les maladies cardiovasculaires.
Eh oui Mathieu, l'acide acétyl salicylique, appelé aspirine depuis 1899, est dérivé de l'acide salicylique présent dans de nombreux végétaux et notamment dans l'écorce de saule. C'était l'antidouleur, l'antipyrétique, antifièvre et l'anti-inflammatoire de référence pour nos grands-parents. Mais au début des années 70, les cardiologues lui ont découvert une autre vertu, celle de freiner l'agrégation de nos plaquettes sanguines.
Vous nous rappelez à quoi servent ces plaquettes, docteur ?
Eh bien, ce sont des petites cellules sans noyau, trois fois plus petites que les globules rouges, dont le rôle est de colmater les fuites. Pour expliquer leur mode d'action, j'aime bien la métaphore de la poêle anti-adhésive.
Allons-y.
Alors, si vous faites une omelette dans une poêle neuve, tout va bien, l'omelette glisse et ne colle pas grâce au téflon qui recouvre l'aluminium. Mais si vous employez une vieille poêle dont le revêtement est rayé, mettons à nu l'aluminium, l'œuf va coller au métal et s'agglomérer autour des fissures. Eh bien, c'est pareil dans nos vaisseaux sanguins. Les plaquettes circulent librement et n'adhèrent pas au revêtement interne de nos artères. Mais en cas de coupure, une brèche apparaît dans ce revêtement, mettant à nu la paroi de l'artère, et cette paroi contient des substances qui activent les plaquettes. Du coup, elles s'agrègent entre elles pour former en urgence un bouchon provisoire qui va colmater la fuite.
C'est assez génial, ça, comme système.
Oui, et c'est vraiment bien fait. Ce n'est qu'un des éléments d'une cascade de réactions en chaîne qui nous permet de survivre aux blessures légères sans nous vider de notre sang. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que les blessures qui activent les plaquettes. Si, comme une vieille poêle, le revêtement interne des artères est fissuré, sclérosé par l'hypertension, le tabac ou une mauvaise alimentation, les plaquettes vont s'agréger à tort au contact de la paroi mise à nu, alors qu'il n'y a pas de fuite. Et c'est le drame. Le bouchon formé par les plaquettes devient un caillot de sang, et s'il bouche l'artère, c'est l'infarctus ou le terrible AVC, l'accident vasculaire cérébral. Et j'en reviens à l'aspirine,
oui, s'il vous plaît.
Qui inhibe l'agrégation des plaquettes. Elle diminue donc le risque d'infarctus ou d'AVC, mais le problème, c'est qu'elle inhibe aussi leur action bénéfique contre les fuites et favorise les saignements et les hémorragies internes. Alors, si l'action anti-agrégante plaquettaire de l'aspirine est très précieuse chez les sujets à haut risque d'infarctus ou d'AVC, peut-on l'utiliser aussi à titre préventif chez Monsieur Tout-le-Monde ? Alors, pour les adultes d'âge moyen, en bonne santé, la réponse a été apportée par des études déjà anciennes. Elle montrait que le risque d'infarctus diminuait, mais que celui de faire une hémorragie grave augmentait d'autant. Donc, bilan nul. La question restait posée chez les sujets de plus de 70 ans. Eh bien, une étude récente et solide va dans le même sens. La prise quotidienne de petites doses d'aspirine chez des sujets ne présentant pas de facteurs de risque aurait plutôt tendance à augmenter leur mortalité, même si elle tend conjointement à diminuer le risque cardiovasculaire. Donc, pas d'automédication sauvage. L'aspirine à visée préventive doit être prescrite par un médecin.
Merci Dominique Dupagne.
À mardi prochain.
C'est terminé pour cette tête au carré. Merci à Guillaume Roux qui était à la technique, Thierry Dupin pour la programmation musicale de l'émission. Ce soir 20h, on se retrouve en direct du studio 104 de la Maison de la Radio avec Lionel Nakache à l'occasion de la première conférence autour du cerveau consacrée à la mémoire. Et n'oubliez pas que vous pouvez également assister en direct à cette conférence où que vous soyez en France dans plus de 100 cinémas. Alors regardez la carte si vous avez encore du temps pour réserver. Il vous suffit de cliquer sur franceinter.fr et prendre vos billets pour nous retrouver donc près de chez vous ce soir à partir de 20h pour parler de la mémoire. Bonne journée en tous les cas, à ce soir et demain bien sûr dans la tête au carré.